Bienvenue dans Blabla Yoga, épisode 66. Trois mythes enveloppent les professeurs de yoga. Et aujourd'hui, il est grand temps de dégommer ces trois-là. Il y en a d'autres, mais ce sont les trois principaux que l'on entend régulièrement quand on est prof de yoga. Allez, c'est parti. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour donner une autre vision du yoga. Un yoga où chacun peut trouver sa place, que l'on soit raide ou flexible, petit ou grand, fin ou rond, quel que soit son âge. Je ne crois pas aux règles universelles de l'alignement, en revanche, je crois que chacun peut trouver ses propres alignements. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je vous propose des réflexions, des partages d'expériences et des explorations. L'intention de ce podcast est de vous offrir la liberté de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Quand on se présente à une personne qu'on ne connaît pas ou dans un groupe qu'on ne connaît pas et que l'on dit qu'on est professeur de yoga, il y a souvent trois phrases qui reviennent. Trois remarques qui sont généralement posées sur le tapis et qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Et c'est ces trois images que l'on va déconstruire au fil de cet épisode. T'es prof de yoga ? Mais tu dois être jamais stressé, toi. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Combien de fois nous avons, en tant que professeur de yoga, entendu cette phrase? D'ailleurs, ça devient même un gimmick, une phrase que l'on se répète régulièrement quand l'un d'entre nous raconte ses déboires ou ses difficultés ou ce qui le rend vulnérable en ce moment, et à chaque fois on répond en disant « mais c'est bon, t'es jamais stressé toi, donc où est le problème ?» Donc oui, le stress envahit aussi les profs de yoga, sans aucun doute. À croire que quand on est prof de yoga, on a quelque part mis sa cape de super-héros. Cette cape qui nous permet d'être dans le calme, sans luxe, et la volupté. Mais il faut le dire, nous ne sommes pas des êtres à part. Nous faisons partie des humains. Donc il n'y a aucune raison de ne pas être stressé. On a peut-être des outils qui nous permettent de diminuer le stress ou d'être moins sujet au stress. Et encore, c'est loin de l'être la réalité parce que ça va dépendre des sujets. Il y a des sujets comme par exemple remplir sa déclaration d'impôt ou faire des papiers peut être un sujet de stress pour n'importe qui, sauf ceux qui adorent faire de la paperasse. Mais ce n'est pas le cas de tous. Est-ce que c'est parce que les professeurs de yoga incarnent un certain style de vie où on se dit qu'on vit dans la lenteur, dans quelque chose qui est beaucoup plus doux, qu'on a bien sûr toute la philosophie yogique qui nous permet de rester dans cette image du no stress? Mais finalement, si vous mettez plein de yogis et de yoginis ensemble, vous verrez que chacun a ses zones de stress, que chacun va vivre les choses différemment. Il y a ceux qui vont avoir des difficultés à prendre la parole. Oui, il y a des professeurs de yoga qui sont légèrement stressés, angoissés avant de parler dans leur cours parce que pour eux, prendre la parole, ça demande un effort important. Pour d'autres, ça va être de gérer les difficultés financières parce que c'est un métier qui finalement ne facilite pas des rentrées de revenus régulières. Il y a des hauts et des bas et pour certaines personnes, c'est ça qui est stressant. C'est cette insécurité financière qui en découle dans ce choix de métier. Pour d'autres, ça n'a rien à voir avec le métier et c'est uniquement ce qui se passe dans la vie personnelle qui va être facteur de stress. Donc le stress est présent pour tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on est prof de yoga qu'on ne fait pas du tout face au stress. Donner un cours, c'est se représenter quelque part. C'est être là pendant une heure et demie, deux heures, trois heures, quand on fait un atelier, on a une représentation, on met notre casquette de prof de yoga. Mais c'est une tranche de vie, c'est un moment, ça n'est pas du tout représentatif de tout ce que l'on peut vivre à l'extérieur. Comme pour n'importe quelle personne, on n'a pas la même intention, la même attitude, le même comportement, parfois le même voix, le même discours quand on est face à des proches, quand on est face à un cercle beaucoup plus étendu d'amis ou quand on est sur son terrain professionnel. Donc c'est exactement la même chose. Quand on vient donner un cours, on porte une forme d'habit, si je peux dire, une casquette, une attitude qui va amener les élèves à être beaucoup plus calmes, posés, être concentrés sur eux-mêmes. Donc le fait d'adopter cette attitude-là favorise toute cette ambiance, tout cet environnement qui amène à l'introspection, à la concentration, etc. Mais on n'est pas dans cet état-là 24 heures sur 24, c'est pas possible. C'est pas possible d'être dans cette idée-là, d'être dans le calme, dans la pause, dans le pas de vague pendant toute la durée de la journée. Donc on donne finalement cette image aussi d'être quelque part invincible ou invulnérable parce que pendant une heure et demie, on tient un rôle, mais c'est pas du tout représentatif. Et puis en plus de ça, parfois, si on a un côté perfectionniste ou on a envie de montrer une certaine image, on en rajoute. On rajoute, on dit jamais quand ça va pas, quand on pète les plombs, quand on n'a pas envie, quand etc. Donc c'est juste une représentation. Et moi, j'ai joué longtemps ce jeu-là, où je tenais à montrer une certaine énergie, une certaine position, une certaine attitude qui est parfois complètement loin de ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui parle beaucoup avec les mains, je gesticule beaucoup, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de bouger. Et le fait de rester assis sur son tapis pour donner un cours, ben, c'est pas forcément ce qui me représente le plus. Donc à un moment donné, j'ai aussi changé ma façon de faire pour accepter d'être moi-même dans un cours. Quand je donne cours, je suis moi-même, donc je fais des blagues pourries, je raconte les mêmes bêtises régulièrement, j'essaie de faire rire tout le monde pour décoincer les zygomatiques, et puis quand il y a quelque chose qui me chagrine, qui me chiffonne, je l'annonce. Par exemple, il y a quelques semaines, une collègue m'offre un café puissance 10. Honnêtement, c'est pas du tout ce que je bois habituellement, même si je suis une grande fan de café. C'était un café très fort, mais je m'en étais pas rendu compte sur le coup dans ce qu'elle avait choisi. Et 20 minutes après, je donnais le cours. Sauf que je suis arrivée dans le cours en ayant un palpitant qui battait à fond la caisse. Ça prenait tellement de place que j'arrivais plus à me concentrer. Je sentais la pulsation cardiaque, je sentais mon sang qui circulait à l'intérieur de mon corps, et vraiment le cœur, il prenait tellement de place que j'arrivais pas à faire taire ces sensations-là et que j'avais du mal à me connecter à mes pensées tout simplement. Donc je l'ai annoncé, j'ai dit ben voilà, je suis désolée, on vient de m'offrir gentiment un café puissance 10, ben mon cœur il est au maximum, il faudra attendre un petit temps avant que ça redescende, donc je m'en excuse, mais c'est comme ça, on va commencer comme ça et ça va se passer et tout ira bien. Et voilà, c'est aussi ça de pouvoir montrer les différentes choses. Quand, par exemple, je me retrouve avec beaucoup d'idées dans la tête parce que je suis en train de travailler sur un nouveau programme, parce que j'ai une lecture qui m'a chamboulée, etc. Je le dis, ben voilà, je suis pas très concentrée dans ma tête et c'est ok, on va le faire ensemble. Donc, personnellement, quand le cours commence et qu'il y a quelques minutes pour que tout le monde puisse arriver, tout le monde se poser, qu'il y ait une ambiance qui s'installe dans le cours, qui encore une fois favorise l'introspection, l'écoute, eh bien ça me sert aussi avant pour moi avoir le temps de me poser, de poser mes idées, d'être présente. Ça sert à tous, donc c'est pas uniquement pour les participants, c'est aussi et souvent beaucoup plus pour l'enseignant de faire cette transition entre l'extérieur et ce moment où on va donner le cours et on va créer une atmosphère propice à un cours. Vous voyez, il n'y a pas non plus de règles et chacun va réagir face au stress de manière différente et l'annoncer dans un cours, avant de donner un cours, c'est aussi montrer qu'on n'est pas invincible, qu'on n'est pas différent, qu'un prof de yoga n'est pas quelqu'un d'à part qui et jamais sans stress, qui arrive toujours de bonne humeur, ce n'est pas le cas. Parfois, vous avez des personnes, et ça dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle situation personnelle, où on va mettre un masque, on va endosser une attitude pour dire que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, tout craque, tout lâche. Donc c'est aussi important, je trouve, qu'en tant que professeur de yoga, de dire ce que l'on traverse. Alors ça ne veut pas dire de s'étaler sur tous les problèmes qu'on a de A à Z. C'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, mais de reconnaître que ben voilà, vous êtes dispersé, vous êtes fatigué, vous n'avez pas assez de concentration, il vous arrive des trucs en ce moment et vous savez plus trop où vous en êtes. C'est ok. C'est ok de le poser. Déverser, ça ne l'est pas, mais c'est ok de pouvoir dire que, bah, à ce moment-là, le stress nous envahit, ce qui fait qu'en plus de ça, on est moins mis sur un piédestal par les élèves et on ne véhicule plus cette image qu'un prof de yoga vit sans stress, parce que c'est loin, mais loin d'être le cas. Donc finalement, moi je me retourne la question en me disant, à force d'arriver sur notre tapis pour enseigner ou d'arriver dans le cours pour enseigner en étant toujours dans la même humeur, la même attitude, avec une voix qui est toujours la même, avec des propositions qui sont similaires, si finalement en tant que professeur de yoga on véhicule pas cette idée que, eh bien, on est sans stress, on n'a pas de stress tout au long de notre journée. Mais peut-être que on a aussi cette part de responsabilité de changer les choses et de se dire ok, ben maintenant je vais dire ben quand j'ai besoin d'avoir un peu plus de temps ou quand je suis pas du tout concentrée, on va dire ben voilà, on va faire un exercice respiratoire pour commencer, ça va me permettre moi aussi de me poser comme vous avez le temps d'arriver dans la pratique et de changer cette image-là parce qu'on l'exprime, parce qu'on le dit, parce qu'on le montre que un professeur de yoga est un humain avant tout. Donc ça, c'était le premier mythe. Les profs de yoga ne sont jamais stressés. Et ça, pour être clair, ce n'est pas vrai. Ma pire angoisse, enfin une de mes pires angoisses, c'est de me dire qu'il va falloir faire ma fiche d'impôt ou remplir mes feuilles de TVA. Et ça, déjà, rien que ça, c'est le stress pas absolu, mais conséquent. Le deuxième mythe concerne la souplesse. Quand on dit qu'on est prof de yoga, il y a cette illumination qui se met dans beaucoup de personnes qui sont plutôt sédentaires ou qui ne font pas du tout d'activité corporelle qui demande de la souplesse. Ils nous disent « Mais toi, tu dois être super souple !» Comme s'il y avait une confusion entre gymnaste et yogi. Mais les yogis ne sont pas des gymnastes. On n'est pas cette image-là de pouvoir faire toutes les postures. Bah, peut-être, en fait. C'est peut-être ce qu'emmènent les réseaux sociaux avec toutes ces images de personnes hyper souples, sveltes, avec le nouveau legging à la mode. Mais c'est loin de représenter la réalité. Mais loin de loin. Et heureusement, d'ailleurs. Et ça se le voit déjà, ne serait-ce que quand on regarde tous les participants qui arrivent dans un cours, tous les participants ne sont pas sveltes, blancs, élancés, hyper souples. Il y a de tout. Dans un cours. Dans certains cours, il va y avoir peut-être plus de personnes athlétiques parce que c'est un cours qui demande plus de force physique, de souplesse, etc. Puis vous avez d'autres cours qui ne nécessitent pas toutes ces qualités corporelles, on va dire. Et vous avez plein d'autres types de corps, plein d'autres types de personnes et surtout des personnes qui viennent chercher autre chose que le côté athlétique. Donc il y a tout un panel de personnes qui viennent prendre un cours. Et ce n'est pas uniquement des personnes qui sont souples. Donc pourquoi cette idée que professeur de yoga, c'est forcément être souple? Je suis l'antithèse de cette idée-là, parce que je n'ai pas de souplesse dans tout mon corps. Mes hanches, depuis que je suis née, sont très peu souples, même si j'arrive à faire des choses quand même. Mais c'est génétique dans ma famille, les hanches sont fermées, les hanches ont peu de mobilité. Et j'ai de la chance, parmi ma fratrie, d'avoir le plus de souplesse. Et elle n'est pas très grande. Ma colonne vertébrale est très très limitée. Quand je fais un dos rond, quand je fais un dos creux, combien de fois, quand j'ai démarré la pratique, on me disait « Mais tu vas pas assez loin, il faudrait pousser un petit peu plus loin, tu fais pas assez d'efforts, il faudrait arrondir plus, pratique encore. » Mais non, ma souplesse, elle est comme ça. Ça fait 30 ans ou plus, même 40 ans que je danse. Ma souplesse ne s'est pas améliorée. Au contraire, ce que j'observe aujourd'hui avec mes 48 ans, c'est de voir qu'il y a des changements dans mon corps et que je perds encore en souplesse. Et c'est ok, il y a un autre cycle qui arrive dans ma vie physique et c'est un autre chemin qui se profile et c'est ok, ma souplesse est en train de diminuer encore un petit peu. Donc je continue ma pratique de yoga pour entretenir ce qui existe déjà. Donc, faut pas être souple pour pouvoir être professeur de yoga. On n'a pas besoin de ça. Et peut-être que cette idée que la répétition va amener au changement, que c'est parce qu'on répète régulièrement les mêmes postures qu'on va atteindre une certaine souplesse. Oui, la répétition va avoir cet effet-là. Mais à un moment donné, on atteint ses limites physiques. La répétition n'est pas la solution finale à pouvoir faire le grand écart quand on en est loin. Quand on s'installe dans une posture et qu'on a mal dans les hanches, faut-il absolument continuer à avoir mal aux articulations pour atteindre une posture qui ne pourra pas être réalisée par certains types de corps. Donc notre physiologie, notre morphologie, notre anatomie sont des limites et c'est un cycle et c'est ok. Alors souvent on nous dit en plus, oui mais quand j'étais jeune, moi je faisais le grand écart, etc. Mais oui, mais quand on était jeune, il y avait peut-être pas la puberté qui est passée par là. Une fois que la puberté arrive, ça change drastiquement certains corps. Il y a certains corps qui étaient hyper souples, hyper filiformes avant la puberté. Arrive la puberté, ça change complètement. On a un corps qui devient beaucoup plus massif, beaucoup plus ancré, et l'attitude change aussi. Et c'est ok, ça fait partie des changements. Donc, cette idée que d'être souple pour être professeur de yoga vient aussi de ça, que la répétition va faire que l'on va améliorer sa souplesse. Mais c'est une illusion. C'est une illusion parce que ceux qui parlent de cette souplesse qui est améliorée, qui montrent cette souplesse, ils ont déjà dans leur patrimoine génétique cette souplesse ancrée dans leur patrimoine génétique, alors que d'autres n'ont pas ça, ont autre chose dans leur patrimoine génétique. Et c'est aussi important de pouvoir respecter ces différents types de corps. Alors des fois, j'en veux un peu aux réseaux sociaux, hein, ou aux magazines de yoga qui ne montrent qu'une frange de la population, et c'est pas du tout représentatif des élèves que j'ai en face de moi. Et j'aime bien ce qu'a proposé Claire Castagne dans l'épisode 55 « Yoga ronde ». Donc l'épisode 55, Claire parle de montrer la différence, d'oser montrer la différence. Et parce qu'on va montrer de plus en plus sur les réseaux, sur les magazines, cette différence, que l'on va changer notre regard vis-à-vis du monde. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui n'osent pas passer la porte d'un cours de yoga parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas souples. Et comme ils ne sont pas souples, eh bien ils ne peuvent pas aller prendre un cours de yoga. Donc si comme moi, vous manquez de souplesse, vous enseignez le yoga, s'il vous plaît, montrez-vous avec vos petites amplitudes, montrez-vous avec votre différence pour que d'autres personnes puissent se dire « Ok, le yoga c'est pas qu'une histoire de souplesse, c'est pas qu'une histoire d'attitude, je peux être forte, je peux avoir de la poitrine, je peux être élancée et venir prendre un cours ». Et de changer cette image-là que le yoga doit représenter une certaine forme et s'adresser à une certaine frange de la population. Donc allez-y, si on veut incarner ce hashtag yoga pour tous, eh bien il est important, comme le dit Claire, de montrer la variété dans les corps, la variété dans la pratique, et que chacun puisse s'y reconnaître. Et parce qu'il va y avoir plein de représentations différentes, des personnes de couleurs mélangées, des tailles, des formes, des rondeurs, des pas de rondeur, etc. pour que chacun puisse se dire « Ok, le yoga, ce n'est pas qu'une question de souplesse » et qu'on puisse passer à autre chose plutôt que de courir après cette souplesse qui n'est que finalement une illusion. Je suis vraiment pour un changement dans cette représentation des corps et j'essaie de faire de mon mieux, même si je déteste me montrer parce que j'aime pas montrer, j'estime en plus que la pratique est quelque chose de personnel, donc j'ai du mal à montrer ma propre pratique parce qu'elle m'appartient, j'ai pas envie de pratiquer devant une caméra pour voir montrer comment est ma pratique, comment est mon corps, et je pourrais faire aussi juste des enregistrements, des vidéos pour montrer comment est mon corps dans la pratique, mais je trouve ça vraiment pas juste, c'est pas au bon endroit, c'est pas là où j'ai envie d'être, parce que pour moi elle est personnelle. Et j'aime bien quand on peut échanger sur la pratique, mais pas forcément faire des démonstrations de ce que j'arrive à faire ou ce que j'arrive pas à faire. Mais ça, c'est mon choix personnel. Peut-être que ça changera dans quelques années, j'aurai peut-être plus envie de montrer ce qui se passe vraiment de l'autre côté. Mais on fait chacun de son mieux. Et voilà. Et en ce moment, sur Instagram, grâce à ma collègue Julie Pagès, on fait des vidéos justement pour montrer la différence entre un corps avec de l'amplitude et un corps avec peu d'amplitude. Il a fallu, je sais plus, 8 mois, quasiment même 10 mois pour arriver à mettre en forme ces vidéos. Elles sont tournées depuis le mois de juin 2023 et c'est seulement maintenant, au mois de mars et d'avril, que j'arrive à les monter et à les présenter. Vous voyez, tout le temps qu'il a fallu pour que ça mûrisse et que enfin je sois dans cette capacité de montrer cette différence et d'assumer aussi cette différence. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Instagram et regarder ces petites vidéos, ces reels que l'on met en place avec Julie pour montrer justement qu'il y a des variations et des différences et que ce n'est pas que de la souplesse, cette histoire de yoga. Donc voilà, pour terminer ce mythe autour de la souplesse, montrez-vous si vous ne ressemblez pas à ce qui est représenté sur les réseaux sociaux, sur les magazines de yoga, sur les images dans l'internet, comme diraient les Québécois. J'adore cette expression, dans l'internet. Le troisième mythe, c'est la gestion des émotions. Ça revient un petit peu avec le no-stress, hein, ce premier mythe vu en début d'épisode. Est-ce que c'est l'image de la méditation qui fait que les professeurs de yoga donnent cette impression d'être des longs fleuves tranquilles où il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas d'émotion, tout se passe bien? Pendant longtemps, j'entendais que la méditation, elle était faite pour ne plus avoir d'émotions, pour ne plus ressentir des émotions. Parce que à force de parler des émotions et de la méditation, il y a cette image-là, cette idée-là qui s'est amalgamée au reste. Mais non! En fait, la méditation, elle est là pour, ou même la pratique du yoga dans les postures, hein, dans les asanas, c'est d'observer nos émotions et nos réactions. L'idée de tout ce travail-là, de toute cette approche-là, c'est d'être moins sujet aux prises des émotions, c'est-à-dire laisser les émotions s'exprimer à l'intérieur du corps. Quand on a peur, eh bien, on va avoir peut-être le cœur qui va battre d'une autre manière, on va avoir les mains moites quand on a le trac, on va être figé sur place quand on doit parler à un public étendu devant nous. Tout ça, c'est fait pour être vécu. Les émotions sont là pour qu'il se produise un changement dans le corps. Donc, c'est important qu'il y ait des émotions. Par contre, tout le travail va nous permettre d'être moins sujet aux résidus de l'émotion. L'émotion, c'est un petit temps. Une émotion, elle va s'exprimer sur quelques instants. Ça peut être très fugace, comme ça peut rester un petit peu... Mais au bout d'un certain temps, ça se transforme. L'émotion, elle devient un sentiment. Elle devient un sentiment de ce qu'on a vécu, le récit qu'on a vécu. Donc si vous êtes fâché avec votre conjoint, votre conjointe, donc sur le moment, il y a toute cette colère, cette émotion, la frustration, etc. Mais une fois que vous êtes sorti des sensations physiques, on arrive dans le sentiment. Donc c'est ça qu'on apprend à diminuer, c'est l'impact des sentiments sur notre façon de vivre, notre interaction avec les autres, pour pas être dans 6 mois toujours en colère avec la même histoire. Donc c'est ça qu'on parle, mais pas d'effacer les émotions. Les émotions, elles font partie de l'humain. C'est ce qui nous caractérise. Et tous les humains, à travers tout le monde, ressentent des émotions et on a les mêmes émotions. Elles s'expriment de la même manière, elles se ressentent de la même manière. La peur va avoir les mêmes caractéristiques sur la population. Donc c'est important de se dire, ok, quelles sont mes émotions, comment je les ressens, comment j'apprends à faire de ces émotions une part de moi-même, parce qu'elles sont là pour exprimer quelque chose, pour faire changer quelque chose, pour que l'on agisse d'une certaine manière ensuite. Donc c'est important de pouvoir se dire que non, un professeur de yoga n'est pas détaché de ses émotions. Ce qu'on va apprendre dans le détachement, c'est se détacher du sentiment qui découle de cette émotion, pas de l'émotion en elle-même. Et puis être complètement détaché, c'est devenir insensible. Et c'est pas le but non plus. C'est pas de devenir insensible à tout sentiment et toute émotion. Sinon, ce serait pas drôle. Sinon, ce serait pas juste non plus. Est-ce que une vie sans émotion, sans rien ressentir, d'être complètement coupé, est une vie que vous avez envie de vivre? Parce que si vous vous dites, moi, je vais faire de la méditation, je vais faire du yoga pour ne plus rien ressentir, et être insensibilisé aux émotions, aux sensations, aux ressentis, est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça que vous cherchez à atteindre? Ou est-ce que vous cherchez à atteindre un espace où vous êtes moins touché par vos émotions, ou en tout cas, vos émotions ne sont pas là pour diriger pleinement votre vie, et si vous êtes en colère, que votre colère ne dure pas 3 ans, mais qu'elle dure le temps suffisant pour vous permettre de prendre des décisions, de changer d'orientation, de réfléchir à ce qui se passe avant d'effectivement passer à autre chose. Et il faut le dire aussi que dans notre construction de cerveau, on a le cerveau de base qui nous permet vraiment de gérer tout ce qui va être le froid, le chaud, manger, dormir, se reproduire, tout ce qui est vital à la survie. Vous avez le deuxième cerveau qui est le cerveau reptilien. Le deuxième cerveau, il est là pour ça, pour la gestion des émotions. Et dans plein de situations, ce sont les émotions qui viennent en premier, avant la réflexion, avant le fait de penser à quelque chose, avant de pouvoir établir des plans. Ce sont nos émotions qui vont nous guider. Et parfois, les émotions sont tellement fortes qu'on va préférer donner un coup de poing pour se défendre plutôt que de réfléchir. Faut-il que je donne un coup de poing pour voir sortir de cette situation ou pas? Est-ce que si je donne mon coup de poing, ça va me faire mal à la main, etc. On ne va pas réfléchir comme ça. La réflexion, elle arrive en troisième lieu. Elle arrive en dernier. Premier, c'est la survie. Le deuxième, c'est les émotions. Troisième, c'est la réflexion. Donc c'est important de se dire aussi qu'un prof de yoga ou une personne qui est sur ce chemin va être aussi impactée par les émotions. Et c'est important. Et peut-être qu'on a aussi appris quand on était petit à pas faire attention à ses émotions, à les mettre de côté et pas apprendre à les gérer. Que 20, 30 ou 40 ans plus tard, eh bien on apprend à gérer nos émotions, on sait pas forcément comment faire. Donc la première chose peut-être c'est de dire ok à chaque fois, est-ce que je suis consciente de mes émotions ? Et c'est pareil en tant que professeur de yoga, de pouvoir annoncer que des fois on est en colère, que des fois on est triste, que des fois on ne sait pas trop ce qui se passe. On peut être triste et joyeux en même temps parce qu'il se passe plusieurs choses dans notre vie, et de pouvoir aussi montrer qu'on est touché par les émotions. Et c'est chouette aussi d'avoir des personnes qui peuvent avoir une sensibilité, une hypersensibilité, et de montrer les choses. Parce que c'est ça aussi qui est important. Et puis, je crois fortement en moi, alors ça c'est ma croyance, c'est peut-être pas le cas de mes collègues, mais je pense fortement qu'on est devenu prof de yoga parce qu'on avait envie d'apprendre à gérer nos émotions, à les écouter. Et que c'est aussi pour ça qu'on est devenu prof de yoga, parce que toute cette philosophie nous permet d'apprendre à nous reconnaître, à laisser sortir nos émotions, sans être dépassé par elle. Donc voilà ma croyance. Elle est ce qu'elle est. Peut-être qu'elle vous parle, peut-être qu'elle vous parle pas du tout. Et c'est ok. Donc voilà pour aujourd'hui ces 3 mythes autour des professeurs de yoga. J'avais prévu un épisode assez court et en enregistrant, je me rends compte que je suis allée certainement plus loin que ce que je souhaitais. Donc voilà. Le prof de yoga ne vit pas sans stress, il est tout aussi paralysé par des événements comme par exemple remplir sa feuille d'impôt. J'y reviens régulièrement, mais parce qu'encore une fois, c'est un de mes travers, le stress face à la paperasse. La deuxième, c'est la souplesse. On n'a pas besoin d'être souple pour pouvoir être enseignant de yoga, on n'a pas besoin d'être souple pour pouvoir guider d'autres élèves, parce qu'il y a tellement de choses. Notre boîte à outils est tellement grande dans le yoga qu'on peut faire plein d'autres choses que de travailler la souplesse. Et la dernière, les émotions sont faites pour être vécues. C'est ça aussi qui fait que nous sommes des êtres humains avec des sensations, des émotions, des sentiments et ensuite de la réflexion. Donc apprenez à découvrir vos émotions. C'est un chouette travail, pas de tout repos, mais cela permet d'apprendre à se connaître et aller en profondeur de soi et de connaître un peu plus son âme et ce qu'on vient titiller dans cette vie, si les lois du karma font partie de vos connaissances et aussi de votre façon de réfléchir au monde. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous êtes professeur de yoga ou pleinement passionné par le yoga et que vous cherchez des pistes de réflexion, que vous souhaitez approfondir, décortiquer votre pratique ou votre enseignement, Eh bien, rejoignez ma newsletter pour professeurs de yoga. Le lien est noté en commentaire, vous le retrouverez très facilement. La news arrive tous les jeudis dans votre boîte aux lettres. Je vous propose de l'essayer, peut-être de l'adopter. Et puis si ça vous plaît pas, il suffit de cliquer sur le bouton qui est en bas de chaque newsletter pour vous désinscrire. Et vous voilà libre de tout engagement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans le prochain épisode qui parlera du diplôme universitaire proposé par l'Université de Lille. Ce DU s'intitule « Adapter et diffuser les outils du yoga ». Je reçois la responsable pédagogique qui vous parlera de tout ce programme qui est intéressant à regarder, même à écouter. Vous allez avoir plein de petites pistes pour votre enseignement ou votre pratique. J'espère donc vous retrouver lors du prochain épisode ou encore d'un suivant. Et d'ici là, je vous souhaite une pratique simple et sans complexe. À bientôt !